Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et je vous ouvre.
Parfait, merci.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Entrez, entrez.
Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir.
Ressemblez à mes parents?
Ah non, pas du tout.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Moulinex, libère la femme. Libère la femme. Libère la femme.
Vous aviez 20 ans.
Bah, qui on va fréquenter? Les grands-mères?
Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire, parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion, et aujourd'hui, nous allons chez Catherine.
Chaque fois qu'il passait derrière moi, il me touchait les fesses. Drôle de coco, hein.
D'accord, super, merci.
Ah là là.
Notre discussion reprend où elle s'est arrêtée à la fin de l'épisode précédent. Après la fuite de l'Espagne de Franco, une arrivée chaotique en France, Catherine nous parle ici de sa vie de femme, de mère et d'épouse. À ce moment-là, de notre rencontre, nous pensions que le plus dur était passé, car la vie de Catherine n'a pas été facile. Et puis non, la vie continue, avec ses embûches, mais Catherine les enjambe avec sagesse et toujours le rire dans la voix.
Quelqu'un me l'a prêté et je ne sais pas qui me l'a prêté. Et puis donc, moi, j'ai fait mes études dans cette petite école finalement. Je m'en suis bien sortie puisque à 15 ans, j'ai passé mon certificat d'études. À l'époque, c'était certificat d'études. Mais naturellement, après le certificat d'études, j'ai été reçue. D'ailleurs, sur 5, on a été 2 reçus. J'étais très fière. Et puis, alors après, l'institutrice qui dit à maman, alors qu'est-ce qu'on va faire de Catherine maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire de Catherine? Alors maman et papa, ils ne savaient pas trop, hein, qu'est-ce qu'on peut faire. Ah, ben alors, il y avait une famille de juifs qui cherchait une petite bonne. Ils m'ont envoyé chez faire la petite bonne. Je ne suis pas restée longtemps. Hein. Il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Je veux dire ça parce que la dame en question, elle était énorme, hein, obèse. Il n'y avait pas l'eau courante à l'époque. Donc, il fallait que j'aille chercher de l'eau, que je fasse le chauffer et que je la baigne, la grosse mémère. Là. Alors, on avait un bac par terre, et puis il fallait que je lui verse l'eau. Oh, je ne supportais pas ça. Ça m'embêtait de la savonner. Oh là 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 là. En plus, il y avait son petit-fils, un garçon qui devait avoir 18-19 ans. On m'avait collé dans un couloir, on avait mis un petit lit dans un couloir. Et comme par hasard, chaque fois quand j'allais me coucher, le gars en question, il passait. Il voulait me voir en tenue légère, sans doute. Ça m'embêtait. Un beau jour, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie. Après, on m'a envoyé chez une couturière. C'était pas mon truc non plus, la couture. Je sais pas pourquoi. J'avais toujours mes mains qui étaient moites, elles me donnaient toujours du talc. Oh là, ça, c'était pas mon truc. Et puis un beau jour, il faut dire que maman avait un frère à Cuba. Son jeune frère avait été acheté par le club de football de Barcelone. Il jouait très très bien au football. Il avait 18 ans. Donc le club de Cuba l'avait acheté. Et donc, on a commencé à pouvoir lui écrire. Il nous a envoyé un peu d'argent. Alors, ça m'amuse quand... Il nous a envoyé l'argent, je ne sais pas combien de dollars, entre deux cartes de visite. Il mettait du scotch autour et il mettait les sous là-dedans. Ça ne devait pas être grand-chose. Mais ça nous a quand même dépanné un petit peu. Ce qui fait que ça m'a permis d'aller au cours Pigier. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça n'existe plus, le cours Pigier. Eh bien, pour apprendre la sténodactylo. Voilà. Alors, j'avais 16 ans. Hein. Je travaillais dans la journée. Et le soir, j'allais au cours Pigier à partir de 6 heures, je crois. Je faisais les deux choses. Mais c'était dur, parce que je ne connaissais pas encore tellement bien la sténodactylo, et il fallait quand même travailler. Et quand le directeur, c'était deux directeurs, c'était une usine de chaussures à Limoges, quand les directeurs m'appelaient pour prendre le courrier, oh là là, j'en tremblais, parce que j'avais du mal encore. Et heureusement, j'ai eu beaucoup de chance aussi, parce qu'il y avait la secrétaire et le comptable dans la petite entreprise. Bon, j'étais au bureau, bien sûr, avec eux. Avant de porter le courrier à la signature, ils me regardaient pour voir si j'avais fait des fautes. Alors je retapais, je refaisais. Et ils m'ont beaucoup aidé. Et puis, sauf qu'il y avait un des directeurs qui ne me plaisait pas beaucoup. Ça, j'avais gardé, moi, vos souvenirs. Chaque fois qu'il passait derrière moi, il me touchait les fesses. Drôle de coco, hein. Je vous dis ça. Parce que ça m'a pas beaucoup plu, cette façon de faire. Et puis, je pouvais pas. Et puis, j'étais très. Comment je peux dire ignorante de la vie, hein, finalement. Je connaissais pas. Je me disais pourquoi il me touche les fesses, ce gars. Hein. Mais ça me gênait quand même, ça m'agaçait. Enfin, tout ça pour dire qu'au bout de 3 ans, ils ont fermé l'usine, ils ont fait faillite. Et par la suite, j'ai appris qu'ils ne m'avaient pas déclaré. Alors, pour la retraite. Je ne touche pas grand-chose de retraite. Il ne m'avait pas déclaré. Je vous raconte ça parce qu'il y a aussi eu un épisode un peu difficile. C'est-à-dire que l'architecte de cette entreprise, un ancien rugbyman, était très gentil avec moi. Il me touchait les cheveux. Alors le gars en question, l'architecte, qui me dit « Ah, Catherine, je vais vous apprendre à nager. » Ah, j'ai dit, comment ? Ah ben, vous venez à la maison, je vous verrai. Sur un tabouret. Alors, moi qui étais très naïve, alors oui, j'allais apprendre les mouvements sur un tabouret. Tu parles. Alors, un jour, il me dit, venez en même temps, je suis en panne de secrétaire. Elle est partie, je ne sais pas, ce qui se passait. J'ai du courrier à taper, si vous pouviez venir à la maison. Mais il y a ma femme, et en réalité, il n'y avait personne. Quand je suis arrivée là, il s'est jeté sur moi, j'ai manqué de me faire violer. Ça a été terrible. Ça m'a beaucoup bouleversée. Alors, heureusement que je faisais, à l'époque, je faisais beaucoup de sport, du basket, du vélo. Et j'ai commencé. J'ai eu la chance qu'il n'ait pas fermé la porte. S'il avait fermé la porte à clé, parce que là, j'ai réussi à me sauver. La première personne que j'ai rencontrée de la rue, c'était un ami de papa. Je l'ai embrassé, il se demandait ce qui m'arrivait. Et il m'a dit, surtout n'en parle pas à ton père, parce qu'on aurait été expulsé aussitôt. Bien sûr, ma parole contre la parole d'un architecte, un type qui était connu dans toute la région, ça n'aurait pas tenu. Donc on nous aurait expulsé. Et bon, j'ai rien dit, j'ai raconté à maman, mais bon. Ça a été un mauvais moment aussi, parce que quand on est jeune comme ça, qu'on ne connaît rien de la vie, et qu'un bonhomme se jette sur toi comme ça, j'ai eu très très peur. Vraiment, ça m'a marqué.
Et toi, tu dis je ne connaissais rien à la vie, mais qu'est-ce que tu savais? Qu'est-ce que tu t'es dit?
Écoute, je ne savais rien, parce que le problème en Espagne, on était très prudents et on ne se mettait jamais nus l'un devant l'autre. Hein, et on ne parlait pas du tout des problèmes sexuels. Tu vois. Pour te dire, quand j'ai eu mes règles, à 16 ans, tard, c'est quand je travaillais chez la couturière. Et je me dis, comment, qu'est-ce qui m'arrive? Alors je lui raconte, j'ai du sang, qu'est-ce qui m'arrive pour mes premières règles? Et c'est elle qui m'a expliqué un petit peu ce qui se passait. J'ai eu très peur parce que maman et papa nous avaient rien dit.
Et quand on a parlé à ta maman de cette tentative de viol, est-ce qu'elle t'a expliqué
du coup ? Non, mais c'est-à-dire que moi, je ne savais pas ce qu'il me voulait, cet homme. Il m'avait bousculé, il m'avait serré, il voulait m'embrasser. Mais maman, c'est un sale type, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais elle ne m'a pas donné de détails non plus. Parce que trois fois, j'ai manqué de me faire violer. J'étais assez jolie, et alors sans doute aussi, les hommes, j'étais attirée par une jeune fille comme ça, naïve, qui était jolie. Alors, en plus, j'étais assez bien formée, j'étais formée assez tôt, et alors, j'étais attirante sans doute, mais moi, je ne m'en rendais pas compte. La deuxième fois, c'est à Paris, quand on est arrivé à Paris, quand je suis arrivée, parce que, entre-temps, à un moment donné, ma soeur s'est retrouvée au chômage. Et moi, ce n'était pas brillant. Je travaillais chez Monsieur Gros le matin. Et l'après-midi, je travaillais dans un magasin. Un magasin où on vendait des produits pour la porcelaine. Bonjour, on a décidé. On avait des amis qui habitaient Paris, qui étaient à Paris. Et qui insistaient pour qu'on vienne à Paris. Parce que Limoges, c'était assez triste. Il n'y avait pas de travail. Et un beau jour, ma sœur, une amie et moi, on a décidé de venir à Paris. Et une chose qu'on ignorait, c'est qu'en tant que réfugiée, en tant qu'étrangère, dès que tu arrives dans une ville, que tu partais d'une ville, il fallait le signaler que tu partais. Et quand tu arrivais dans une autre ville, tu allais au commissariat pour dire que tu étais arrivée de tel endroit. Hein. Mais une chose qu'on ignorait à Paris, c'est que chaque fois qu'on changeait d'arrondissement, il fallait aller au commissariat de l'arrondissement. Voilà. Et ça, on ne le savait pas. Et un beau jour, on va dans un commissariat du 6e, et toutes les trois, ils nous ont insultés, ils nous ont traités de tout. Ils s'amusaient comme ça. Alors, notre amie s'est mise à pleurer, ma soeur commençait à s'énerver, ils nous ont traités de tout. Mais alors, même d'escargots, une chose que je me demandais, pourquoi l'escargot ? Parce que, soi-disant, les Espagnols, on avait toujours tendance à partir avec le baluchon sur l'épaule, à voyager, à partir d'un pays à l'autre. Alors, on était des escargots. Voilà. Enfin, en tout cas, le commissaire me dit, viens par ici, toi. Alors moi, je le suis. Ma soeur qui me dit, où est-ce que vous voulez l'amener ? Où est-ce que vous voulez me tenir ? Arrête ! Alors, il m'amène. Il y avait une pièce à côté. Et dès qu'il a fermé la porte, il s'est jeté sur moi. Ah, mon mari qui arrive.
Bonjour.
Bonjour.
Ah non, c'est mon fils, voilà. Voilà.
Bonjour. Enchanté. Marc.
Héloïse.
Enchantée. Bon. Ça, je vous le donne.
L'arrivée de son fils nous offre une respiration dont nous avions besoin. Ses expériences avec les hommes sont difficiles à écouter pour nous. Nous avons envie de hurler. Mais comment est-ce possible ? Mais tu n'as pas porté plainte ? Et puis, on se rappelle que nous sommes dans les années 50, que Catherine est réfugiée et sans défense. La vie des femmes n'est pas toujours facile, comme elle le dit si bien.
Eh bien là, je ne sais pas. J'ai trouvé les mots qu'il fallait. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à me dégager, à lui parler. J'ai parlé. Ça, il s'est calmé. Il a ouvert la porte. Il est revenu vers ses camarades. Et il dit, bon, on s'est assez amusé comme ça, ça suffit. Et il nous a accompagnés à l'endroit où nous habitions, rue Dauphine. Je ne sais pas si vous connaissez la rue Dauphine. Quartier latin que j'aimais beaucoup, ce quartier. On était dans c'était la cour des miracles, là. C'était un endroit où il y avait de toutes sortes de gens de tous les pays. C'était sympa. Ça n'existe plus. Maintenant, à la place, j'y suis allée dernièrement avec une amie d'ici. Et il y a à la place un hôtel 5 étoiles. Ça a changé parce qu'à l'époque, c'était vraiment très, très bon marché. C'était des petites chambres sans aucun confort. Hein. Mais on n'avait pas tellement de moyens pour pouvoir se payer. Alors, on était toutes les trois, là. Et on a fait, je crois, que tous les arrondissements de Paris. Parce qu'au bout de mois, ça, je ne sais pas si vous le savez, au bout de mois, on est obligé de vous changer le tarif. C'est-à-dire que normalement, vous payez à la journée l'hôtel. À la journée, au bout de mois, vous êtes obligé de vous mettre au mois. Et ça ne les arrange pas. Ils nous disaient, là, hop, il fallait chercher. Mais on en trouve, je vous raconte ça aussi. On aimait beaucoup danser à Limoges. Mais c'était des bals de société. maman nous accompagnait, les mamans accompagnaient, puis on dansait. Et moi, j'aimais beaucoup danser, vraiment, ma sœur aussi. Mais à l'époque, c'était les tangos, les passodobles, les valses, hein, vraiment. J'avais un très bon cavalier, d'ailleurs, un garçon magnifique. Et donc, arrivé à Paris, on pensait que c'était la même chose. Et on avait beaucoup entendu parler du bal, l'avenue Wagram. Alors, nous voilà partis là-bas. Et alors là, quand on arrive dans cette... On pensait que c'était un endroit chic, un endroit bien. Oh là là, les garçons qui nous faisaient comme ça pour venir nous inviter. On était habitués à ce qu'on vienne nous demander comme ça, gentiment. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est ce truc-là, bon. Et là, on avait rencontré des garçons charmants. Alors, ils avaient compris qu'avec nous, il fallait parler politique, parce qu'on était en pleine toujours de la politique, nous. Hein. On n'oubliait pas l'Espagne, on n'oubliait pas Franco. Et on était très engagés chez les libertaires, chez les anarchistes. Et donc, ces garçons, très charmants, très bien. Et à l'époque, on cherchait un appartement pour faire venir nos parents de Limoges. Bien sûr, mon père et ma mère qui nous demandaient toujours, on voudrait bien venir vous retrouver quand même. Alors, et donc un jour, c'est quoi, au Moulin de la Galette, oui. il y a un des garçons là qui nous dit, ah mais moi j'ai un appartement, mes parents vont partir en province, donc ça pourrait convenir à vos parents. Vous devriez venir le visiter à 1h du matin. On va visiter l'appartement. Alors, le problème, c'est qu'on était très complexés, les venant de province par rapport à Paris. Alors, moi, je dis, mais c'est pas possible, on peut pas aller à 1h du matin. Alors, c'était à la fin du bal. Aller visiter un appartement à cette heure-ci. Mais c'est... Alors, je dis, oh, écoute, tu vas pas faire la provinciale. On est à Paris, ici. À n'importe quelle heure, on peut aller visiter. Tu pars. Alors, on arrive là-bas, mais ils avaient tout manigancé, les gars en question. Alors, c'était un sixième étage, c'est assez haut. Et ils prétendaient qu'il y avait le père et la mère, ils n'étaient pas là, il n'y avait personne. Alors, on arrive, ils étaient quatre garçons, et nous, on était six. Ils avaient déjà tout prévu, ils avaient nos bouteilles de champagne. Ils avaient... Alors, à l'époque, il n'y avait pas de revue pour nous, hein. Mais il y avait des revues de... comment on l'appelait ça, où on voyait des femmes et des garçons en tenue de sport, sportive, enfin, pour qu'ils étaient là, qui traînaient. Et puis à l'époque, ça, quelquefois, on était quand même naïfs. Alors, il nous faut visiter, bien sûr. Et à l'époque, ma sœur, qui souffrait de rhumatisme, enfin, elle se faisait masser les jambes. Alors, il y en a un qui a prétendu qu'il était ma sœur. Alors, ma sœur, elle allait se faire le massage. Elle a une pièce à côté. Je dis, ah non, non, il n'en est pas question, il n'est pas question. Alors là, ils ont commencé à s'énerver, parce que s'énerver, au début, ça allait, gentil. Et puis, quand ils ont vu que ce n'était pas ce qu'ils s'imaginaient, ils ont commencé à nous insulter. Et ils parlaient argot. Nous, on ne comprenait pas l'argot, on ne savait pas de quoi ils nous... Oh là là. Alors... Moi, je me suis fait bousculer. À l'époque, je me souviens, j'ai traîné un joli petit ensemble. Je me suis retrouvée par terre. Oh là là! Et on a eu beaucoup de chance parce qu'en arrivant, ils nous avaient fait des chaussées pour ne pas faire de bruit, bien sûr. Et ils avaient pris nos chaussées, ils les avaient mis au-dessus d'une armoire. Et heureusement qu'il y en a un, il a eu quand même pitié, je ne sais pas ce qui s'est passé chez ce garçon, et il a pris les chaussures, il a ouvert la porte, il nous les a balancées dans l'escalier, et puis il nous a fichés dehors. Mais on s'est retrouvés, je ne sais pas, il était 3h ou 4h du matin, je ne sais plus, dans un endroit qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas où est-ce qu'on est là.
Et comment se sont passées justement tes premières rencontres avec des hommes, ou enfin hormis celle-là, hein, je veux dire.
Mais les hommes, c'est quand j'ai connu mon mari. Mm-hmm. Dans les réunions d'anarchistes, et c'est là que j'ai connu mon mari. Et alors c'était très curieux parce qu'on s'apprêtait à partir à Cuba chez mon oncle. Mais pour aller à Cuba, il fallait d'abord passer par le Canada. Et on avait des amis au Canada. Et bon, on communiquait avec eux, on s'écrivait. Et puis, un jour, je reçois le visa, on pouvait partir. Alors, j'arrive à une des réunions. Je suis contente, nous avons notre visa, on va pouvoir partir. Et mon mari dit, oh, tu vas pas faire ça. Je ne savais pas qu'il était amoureux de moi. Je savais pas. Alors, c'est là que... J'ai appris qu'il voulait se marier avec moi. Ah, ça a été très comme ça, tout simplement. Moi, je l'aimais pas particulièrement, mais bon, lui m'aimait, puis on s'est mariés. On a vécu rue Dauphine.
C'était en quelle année?
En 59. Ben, il va y avoir 60 ans. Mmh. Oui, 59. Voilà.
Et au moment, donc, tu as rencontré ton mari en 59, et vous vous êtes installé.
On s'est mariés, donc.
Vous êtes mariés?
C'est ça. Mmh. Et on s'est installé. Et bien, ma soeur s'est mariée le 1er août, et nous, le 26 septembre. Alors, ma soeur s'est mariée aussi avec un jeune Espagnol, un camarade. Et puis mon mari et moi, on était rue Dauphine. Donc c'est-à-dire que ma sœur était partie et mon mari avait pris la place de ma sœur. Voilà. On y est resté un an, jusqu'à la naissance de Marc. Mon fils est né un an après. Et j'ai que lui. Non, j'ai pas voulu en avoir d'autres. Parce que moi, justement, j'ai beaucoup réfléchi. Ma sœur n'en a pas voulu non plus. À cause de... On voyait venir les difficultés, l'avenir. Parce qu'après, quand je me suis mariée, donc on est resté, un an, rue Dauphine. Et puis mon mari travaillait à l'époque. Il était employé à un syndicat FO. Je sais pas si vous avez entendu parler, Force Ouvrière. Donc il avait un petit salaire. Et moi... Dès que Marc est né, j'ai arrêté de travailler. J'ai voulu m'occuper de mon fils. Et là, par l'intermédiaire des fous et d'amis, on a pu avoir un logement à Sceaux. C'était pas mal.
Bonjour.
Voilà, bonjour, mon mari.
Bonjour.
Voilà.
Bonjour.
Voilà, je raconte mon histoire.
Vous n'êtes pas sorti, là.
Sacrée histoire.
Ouais.
Le volume de sa voix n'a pas cessé de baisser alors qu'elle nous partage des moments difficiles et bruts en présence des deux hommes de sa vie qui sont dans la même pièce que nous. Finalement, nous lui demandons si nous pouvons nous installer dans sa chambre où la discussion peut continuer.
Pour moi, c'était très très important d'élever nous-mêmes nos enfants. Et puis, avec un petit salaire, c'était difficile. Donc, il aurait fallu que, si j'avais d'autres enfants, il fallait que j'aille travailler. Et donc, automatiquement, il fallait que je laisse les enfants à la crèche. Et ça, je ne supportais pas, tu vois, je ne pouvais pas.
Tu n'as plus jamais travaillé après Marc ?
Non. Enfin, quand on est venu ici, j'ai travaillé trois mois à la fac. Alors, c'est tout. Puis alors, après, j'ai créé ma propre entreprise, je peux dire. Ah oui, parce que je suis comme ça, moi, je fonctionne sans argent, je fonce. Hein. J'ai ouvert une librairie, papeterie, ici, à la Quinière. C'était en 76.
D'accord.
Pendant quatre ans. Alors là, j'ai fait une petite liste de mes amis, et je suis allée chez mes amis demander de l'argent. Voilà, tout simplement. Parce que mon mari ne voulait pas que je travaille. Il fallait que il avait le... Il a changé, mais à l'époque, il avait vraiment la mentalité espagnole, la femme à la maison. Voilà. Alors, moi, je suis bien d'accord, mais il arrive un moment, Marc, mon fils, avait 16 ans, j'estimais que je pouvais quand même m'éloigner un peu de la maison. Au moment où mon mari arrivait, la cuisine, tout était prêt, donc il n'avait, je m'arrangeais toujours pour être à la maison avant qu'il arrive. Et là, bonjour quand même, j'avais envie de faire quelque chose. Parce que moi, mon objectif, c'est toujours de faire évoluer les gens. Et je me disais, une librairie, surtout que j'avais très peu de bagages sur le plan intellectuel, j'avais été allée à l'école trois ans, c'est tout. Hein. Alors avec ça, hein, me lancer dans la librairie. Alors, moi, ce que je voulais faire, c'était une sorte de café littéraire. C'était ça qui m'intéressait. Je pensais aux gens de la fac, ils pourraient venir, on pourrait discuter, organiser des débats, c'était ça qui m'intéressait. Après, je me suis lancée dans le bio. À l'époque, c'était tout à fait le début. Et oui, alors j'ai un petit rayon bio, surtout le pain. Et alors, comme les gens qui avaient pour le pas de porte, il fallait payer 3000 francs, à l'époque, je ne les avais pas. Donc, c'est ça que j'ai commencé à faire le tour des amis. J'avais mon petit cahier. Un tel m'a prêté 100 francs, l'autre 200. Et je suis arrivée aux 3000 qu'il me fallait. Voilà. 4 ans, 4 cambriolages. Là, pas de chance. ça a été terrible. Et surtout qu'après, à partir du deuxième cambriolage, on n'était plus assuré. Et donc, on ne pensait pas qu'on serait sans arrêt cambriolé comme ça, la nuit. Alors, à côté, il y avait le kiné, téléphoné le matin de bonne heure. « Madame Caballero, vous avez eu encore de la visite cette nuit ?» Ah, c'était dur. Mmh. Ça a été terrible. Ça a été 4 ans vraiment très difficiles.
Jusqu'au moment
où on a été obligé de fermer, d'arrêter. Et je l'ai beaucoup regretté parce que plus ça crée une certaine ambiance dans le quartier. Et donc en 80, on a fermé. Après, nous sommes partis à Fontenay-aux-Roses. Alors naturellement, on a fait mai 68, naturellement, avec des amis de là-bas, de Fontenay-aux-Roses. On allait au quartier latin. On n'a pas fait les barricades, hein. Nous, on n'était pas dans les barricades, mais c'était surtout les discussions, les débats. Oh, c'était formidable, formidable. Là, je dois dire que je suis contente d'avoir connu ça, vraiment. J'étais dans toutes les manifs, maintenant je me calme un peu par la force des choses.
Moi, je voulais savoir comment tu as fait pour avoir un seul enfant.
Réponse, ça n'a pas été évident parce que j'ai fait des fausses couches, des avortements. Et par la suite, je l'ai beaucoup regretté. Parce qu'une fois, eh bien, j'ai manqué mourir. Hein. Parce qu'à l'époque, c'était interdit, l'avortement. Et une fois, donc, c'est une amie de maman qui avait appris dans un camp de concentration comment faire. Alors, elle m'avait injecté de l'eau savonneuse. Et je me suis retrouvée à l'hôpital. J'ai manqué mourir. Ça a été terrible. Et je me souviendrai toujours, j'étais consciente quand même. Mais je ne pouvais pas parler, mais j'entendais une infirmière qui disait « Elle n'a pas voulu avoir un deuxième enfant et puis maintenant elle va laisser un petit orphelin. » J'entendais ça, je savais que j'allais mourir. Hein. Et bien, je m'en suis sortie quand même. Ça aurait pu être peut-être plus grave parce qu'il paraissait... Il y en avait qui se retrouvaient en prison. Hein. C'était vraiment...
Tu en as fait plusieurs ?
Deux. Très, très rapprochés. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de protection, on n'avait pas la pilule, on n'avait rien. Donc, et après, il y en a quand même une doctoresse qui m'a mis, comment ils appelaient ça ? Stérilé. Voilà, stérilé. Oui. Et donc, avec ça, après, j'étais tranquille.
Et quand tu décides d'avorter avec ton mari ?
Ah ben oui, bien sûr. Oui, il a compris quand même. Si tu veux... Après coup, c'est vrai que je l'ai regretté. J'ai regretté parce que, après tout, bon, on s'en serait peut-être sorti. On a toujours réussi à s'en sortir. On a acheté cette maison, on n'avait pas le premier sou. On l'a acheté, on s'en est sorti.
Et l'Espagne, dans tout ça, quand est-ce que tu as remis les pieds en Espagne ?
Ben, en Espagne, c'est quand. Donc, quand je me suis mariée, que j'ai pris la nationalité française. Mes parents m'ont poussé parce qu'il y avait encore Franco et on ne pouvait pas y aller normalement. Mais en tant que Française, mes parents m'ont encouragée à y aller pour pouvoir encore revoir ma grand-mère maternelle qui était déjà âgée. Alors moi, j'avais 30 ans. Quand on est arrivé à Barcelone, à l'époque, moi j'étais déjà en pantalon. J'avais un petit ensemble. Et à l'époque, ça se faisait beaucoup, les jeunes gens, quand ils voyaient une jolie fille, ils lui disaient ce qu'on appelle en espagnol des piropos, un mot gentil. Elle est jolie, elle a beaux yeux, ou un truc comme ça. Et ou même des fois, des choses un peu plus... des fesses ou des trucs comme ça. Et moi, j'entends, en sortant de la gare, il y en a un qui dit... Ils étaient deux, ils disent, oh, mira esta. Chalet con su pijama. Celle-là, elle sort en pyjama. Oh, écoute, j'ai pas... Il n'avait jamais eu des femmes en pantalon à l'époque. Donc, c'était en 59, quand je me suis mariée. Eh bien, ça a été difficile parce que les gens avaient très peur. Hein. Personne n'osait parler. Il y avait des polices partout. Surtout beaucoup de polices en civil. Hein. Donc, tu ne pouvais pas savoir que c'était un flic. Hein. Et moi, j'étais très révoltée, toujours très révoltée, naturellement. Par exemple, on allait au cinéma, sans arrêt, il y avait les actualités, à l'époque, c'était toujours les actualités en plus du film, et on voyait Franco partout. Et alors, à l'époque, on voyait toujours Franco qui bénissait, naturellement, encore un nouveau barrage. Il y avait toujours des barrages. Et moi, au cinéma, alors je me mettais à siffler. Mon Dieu. Alors, mes cousins, arrête. Effectivement, un jour, je me suis fait arrêter. Un flic est arrivé. Et puis, en tant qu'étranger, en tant que française, ils n'ont pas pu trop m'embêter quand même. Mes cousines, arrête, elles avaient tout le temps peur. Mais elle a marre d'avoir peur comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis alors moi, il faut m'empêcher de parler. Hein. C'était difficile. Non, je ne peux pas dire que j'ai eu peur. J'ai eu peur quand j'étais petite, quand on nous bombardait là-bas à Vic. Ça, oui. Hein. Tu sais, quand papa venait me chercher à l'école, qu'on courait pour vite se mettre à l'abri, ça fait quand même... Je ne sais pas comment on peut dire ça. Je sais que je ne peux pas... Alors que je suis française, mais j'ai du mal à dire que je suis française. Ça a été trop dur. J'estime que la France nous a vraiment trahis. Qu'est-ce que je peux dire que je retiens? Je ne sais pas. Je pense que j'ai été un peu utile quand même. Un peu utile. J'ai élevé correctement mon fils. Mon mari, alors je regrette un petit peu parce que moi, c'était pas le coup de foudre. J'étais pas vraiment amoureuse de mon mari. Mais je n'ai pas voulu lui faire de peine parce qu'il était très malade. Mon mari a été opéré à l'âge de 20 ans. On lui a levé les trois quarts de l'estomac à l'âge de 20 ans. Et quand je l'ai connu, donc il avait des difficultés parce qu'il faisait n'importe quoi, il faut dire aussi. Il venait des États-Unis, il avait bouffé n'importe quoi là-bas. Après l'opération, il aurait dû faire attention. Et donc, j'étais son infirmière. Au bureau, je me souviens, je l'appelais avant qu'on soit mariés. Marcel, tu sais ce qu'il t'a dit ton docteur? Il faut faire des petits repas, il faut que tu manges peu à la fois. Enfin, je m'occupais de lui comme si on a quand même 7 ans de différence, j'ai 7 ans de plus que lui. Donc. Alors je regrette un petit peu de pas. J'aurais aimé connaître le grand amour, voilà. Parce que finalement, j'ai subi plus qu'autre chose, c'est ça. Alors, quand on n'a pas un élan vers l'autre, je pense que c'est très important. L'amour, il y a aussi le côté physique. Et c'est important aussi, hein, il faut que tout fonctionne correctement. Et moi, disons que je l'aimais bien tant que copain, on peut dire copain, mais physiquement, c'était pas ça. Moi j'étais attirée plutôt par les grands blonds. Moi, j'étais plutôt brune, petite brunette. Et vraiment, mon mari, ça a été plutôt que... J'ai eu de l'affection et puis un peu pitié. Alors, je me suis occupée de lui. Et puis lui, il m'aimait vraiment. Alors, bon, je savais rien de rien. Hein. Et ça n'a pas été très facile quand même, hein, ça je dois dire. Et je sais pas ce qu'on peut dire. Est-ce que c'est mieux parce qu'autrefois les femmes c'était ça, hein, ma maman, son premier homme, ça a été son mari, elle connaissait rien de rien non plus. Et ça dépend, si on est vraiment attiré, ça se passe bien. Passe bien, à condition qu'il soit correct aussi, le garçon, quoi, le mari.
Est-ce que tu as déjà été amoureuse de quelqu'un d'autre? Est-ce que ça t'est arrivé?
Oui, mais j'étais amoureuse de mon cavalier.
D'accord. Ah,
tu sais que je vous ai dit que j'aimais beaucoup danser. C'est un garçon magnifique. Hein. Et comme il était d'une famille bourgeoise, il faisait des études de médecine. Et je me disais, c'est pas possible, ce garçon n'est pas pour moi. Pour moi, alors je l'ai découragé parce que à l'époque on dansait, mais d'une manière très correcte. Hein. Et un jour, je me rappellerai toujours, je l'ai regretté par la suite. Il a voulu se rapprocher de la joue, comme ça, danser joue contre joue. Il y en avait beaucoup qui dansaient joue contre joue, comme ça. Il ne s'embrassait pas, hein, non, mais joue contre joue. Et il a voulu se rapprocher. Oh là là, je l'ai repoussé. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, je ne sais pas ce que je lui ai dit, je ne me rappelle plus, mais je l'ai repoussé. Et bien du coup, après, il venait plus m'inviter. Et ça m'a fait une peine. Il allait toujours inviter une autre jeune fille. Et oh, alors que souvent, on était un beau couple, et souvent on commençait les premiers, on était toujours les premiers à commencer le bal. Et bon, après, quand il n'a pas dû comprendre. Et moi-même, c'est que j'étais très fière, le respect, je sais pas, la manière dont on avait été élevé. Je sais pas. En tout cas, je l'aimais, ce garçon, ah oui. Et j'aurais bien souhaité me marier avec lui, pour vous dire qu'une fois, quand je suis revenue à Limoges, j'ai cherché dans le bottin à la poste, si je trouvais son nom dans la colonne des médecins. Et bon, donc ça aussi, c'est le destin, comme ça. Hein. Ben, c'est-à-dire que j'étais très fière, j'avais été élevée d'une manière par les distances, correction. Pendant 4 ans, puisqu'il venait m'attendre au bureau. Et on allait. Alors c'était rigolo parce que, quand même, quand j'y pense avec le recul, c'était un garçon plutôt timide parce qu'il n'avait jamais essayé de m'embrasser. Hein.
4 ans.
4 ans. Alors il venait me chercher au bureau. Et ça a été un des premiers qui avait un scooter. Alors il venait me prendre avec le scooter. On allait faire un petit tour et puis me ramener à la maison. Comme ça. Enfin. On a des regrets dans la vie. Je crois que si on pouvait éviter quand même de faire des. Ça avait été une bêtise pour moi, parce que je réfléchissais un petit peu trop. Peut-être le fait d'être réfugiée, de ne pas avoir beaucoup de moyens. Quand on allait danser, c'était maman qui nous avait fait une petite robe. On avait vraiment très peu de moyens. Et puis, je m'étais mis dans la tête que les parents de ce garçon ne pouvaient pas m'accepter, quoi.
Écouter Catherine est une véritable leçon de vie. Elle a toujours rebondi entre vents et marées. Sa stratégie de vie, donner et toujours plus. Plus de temps, plus d'amour, plus d'engagement. Dans la vie de Catherine, les hommes jouent un rôle important. Et sur ce point-là, elle n'a pas toujours été gâtée. Comme elle, on aurait adoré qu'elle connaisse l'amour fou, qu'elle rencontre un homme qui lui rende tout cet amour qu'elle a pour les autres. Mais c'est ainsi, et la vie continue avec beaucoup de joie.
Parce que je suis comme ça, moi, je fonctionne sans argent, je fonce, hein.
Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piquée par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à @mamiepodcast et par email à bonjour@mamiedanslesorties.co. À bientôt!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.